On va retrouver notre invité Jacques Rupnik, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Il est rejoint par Chantal Delsol. Bonjour Chantal Delsol, vous êtes philosophe, auteur d'Histoire des idées politiques de l'Europe centrale, réédité aux éditions du CERF, et vous dirigez également l'ouvrage Dictionnaire encyclopédique des auteurs d'Europe centrale et orientale depuis 1945, qui sortira dans 2 ans aux éditions Robert Laffont. Avant de parler de l'Europe de l'Est, peut-être pour rebondir par rapport à ce qu'évoquait dans le journal Clara Le Coq-Réal sur la situation de la droite française, avec la position adoptée par Laurent Wauquiez, avec également un certain nombre de réflexions sur ce que doit être la droite. Est-il légitime, selon vous, de faire un rapprochement entre cette droite française qui semble se durcir, c'est ce que disent en tout cas certains commentateurs, et ce à quoi on assiste en Europe de l'Est, avec un Viktor Orban, un Andrzej Duda en Pologne, est-ce qu'on assiste finalement à des phénomènes qui sont semblables ou pas ?
Oui, je rebondis d'abord juste sur une expression que vous avez utilisée dans votre question. Quand on dit que la droite semble se durcir, je pense pas que ce soit... Que ce soit vraiment le cas. Disons que la droite essaye d'être à droite. Jusqu'à présent, elle a essayé simplement de ressembler à la gauche, désespérément. Et là, elle essaye d'être à droite. Elle est une droite dure. Enfin, je pense pas qu'il faille dire que dès que la droite existe, elle est dure. Parce que c'est une manière de la marginaliser, finalement, de la dégager du terrain. Alors, pour votre question, évidemment, en 2 minutes, il faudrait développer ça davantage, mais si, d'une manière beaucoup trop simple, on décrit la gauche comme une volonté d'aller davantage vers l'émancipation et la droite une volonté d'aller davantage vers l'enracinement, d'une manière très simple, il est évident qu'il y a un lien entre la droite ici et la droite là-bas. Il y a un lien entre toutes les droites, même si la relativité s'installe partout et il faudrait 1500 nuances. Hein. Mais voilà, bien sûr.
Alors,
qu'il
votre
y a
réponse
un lien.
Est intéressante parce que l'enracinement dans les pays de l'Est, dans un pays comme la Pologne, et dans un pays également, on en a parlé comme la Hongrie, peut-être moins. Est pour la République tchèque, mais enfin je vais vous laisser répondre sur ce point, Chantal Delsol. L'enracinement, il est compliqué parce que l'histoire de cette région de l'Europe est particulièrement compliquée. On a vu dans une première partie de cet entretien avec Jacques Rupnik que ce qui incitait les électeurs à voter pour ces partis qui sont des partis souverainistes était peut-être moins un déterminisme économique qu'un déterminisme politique ou culturel. Votre regard à ce sujet ?
Je pense qu'il faut revenir à l'histoire récente et je serais intéressée tout à l'heure de savoir ce que Jacques Rupnik en pense. Il me semble que lorsque nous sommes arrivés dans ces pays après 89, nous avions finalement le souhait et même la volonté de faire qu'ils ressemblent immédiatement à nous. Qu'ils deviennent comme nous, et nous étions des postmodernes, des universalistes, entièrement tournés vers l'émancipation, pour dire les choses comme ça, et eux étaient des pays qui sortaient de lourdes épreuves et qui étaient restés beaucoup plus conservateurs que nous, beaucoup plus proches des religions, ce qui évidemment va ensemble. Et nous avions une sorte de discours moral, disant si vous ne ressemblez pas, c'est que vous êtes en fait des salauds, quoi. Au fond, c'était ça. Je pourrais citer plein d'exemples de ce qui s'est passé dans les ambassades ou ailleurs.
Donnez-nous quelques exemples.
Je me rappelle très bien à certaines époques en Pologne, voir l'ambassadeur qui donnait des leçons aux Polonais qui étaient là en disant mais attendez, vous n'avez pas le droit d'être comme ça, vous avez tort, enfin on est là pour vous sauver.
Enfin, une forme de paternalisme.
Bien sûr, une forme de paternalisme que j'ai trouvé personnellement tout à fait déplaisant. Et au fond, on les a beaucoup agacés. Alors au début, ils n'ont trop rien dit parce qu'ils étaient déjà un peu, à mon avis, un peu affolés. Je serais intéressée de savoir ce que Jacques Rupnik dira tout à l'heure. Et puis, au bout d'un moment, ils ont repris du poil de la bête, si j'ose dire. Excusez-moi de parler comme ça. Et ils se sont dit, mais après tout, c'est peut-être pas eux qui ont raison, c'est peut-être nous. Et au fond, on ferait bien de les écouter un peu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On va écouter Jacques Rupnik.
Je pense qu'il est toujours. Vous avez raison de dire qu'il y avait cette espèce de triomphalisme post-89, l'idée qu'il y avait une voie à suivre, qui était celle de l'Europe occidentale ou du monde occidental, et qu'ils devaient s'adapter. Mais il faut aussi dire que ça, c'est un choix que eux avaient accepté majoritairement. Les élites qui étaient au pouvoir à ce moment-là et qui ont gagné les élections pendant 20 ans, c'est les élections qui avaient exactement ce programme, retour en Europe, s'est traduit par adhésion à l'Union européenne et passage à l'économie de marché, construction d'institutions, etc. Donc ça, c'était le consensus qui a tenu pendant 20 ans, qui a éclaté et qui, depuis une dizaine d'années, est remis en cause. Et maintenant, nous voyons sous quelle forme avec Orban, Kaczynski. Donc il y a la vague antilibérale. Mais il faut savoir que pendant 20 ans, ça a été le consensus dominant en Europe centrale. Je crois que l'une des raisons principales pour lesquelles il est remis en cause, c'est que ce cycle est épuisé. Il y avait en gros un triple programme après 89. Mmh. On veut la démocratie libérale comme en Occident.
Très libérale, parce que mais en Pologne, par
la
exemple...
la démocratie libérale, c'est très libérale, non. La démocratie libérale,
sur
c'est
le
la
plan, sur le plan économique, Jacques Rupnik.
Ah, mais ça, c'est pas la, ça c'est l'économie c'est, de marché. Il ne faut pas mélanger. La démocratie libérale, c'est la séparation des pouvoirs et le constitutionnalisme. Il y avait deuxièmement, passage à l'économie de marché, très libérale, effectivement. En Pologne, thérapie de choc, Václav Klaus, en République tchèque, etc. Donc, passage à l'économie de marché. Et troisièmement, retour en Europe, qui se traduit par adhésion à l'Union européenne. 20 ans après, on peut dire mission accomplie. Mission accomplie puisque la démocratie, ils l'ont, mais elle est en crise. Nous parlons tous de la crise de la représentation démocratique partout en Europe. Ils voulaient l'économie de marché, ils l'ont, et depuis 2008, elle est en crise. Ils voulaient être dans l'Union européenne, ils y sont, et elle est en crise. Il y a le Brexit, etc. Donc, le programme libéral de 89 a été accompli, le cycle est épuisé et il y a un retour du balancier sur le thème de la souveraineté, de l'identité, qui n'est donc pas motivé par des questions économiques, mais qui est plus motivé par des questions de souveraineté politique et d'identité.
Mais c'est peut-être quand même là où il y a un hiatus, Chantal Delsol, parce que on peut présenter effectivement la Pologne comme un pays conservateur sur les questions de mœurs, par exemple. On entend en tout cas un discours au pouvoir qui l'est, mais en revanche, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'économie de marché, alors là, on est très loin de la doctrine sociale de l'Église. Et il faut se souvenir de ce qu'était la Pologne au lendemain du communisme. C'était un pays qui avait des infrastructures très faibles, où on trouvait très peu de choses dans les magasins comme dans les autres pays du bloc de l'Est. Et puis on a vu un déferlement de l'économie marchande qui fait qu'aujourd'hui la Pologne est très germanisée, par exemple, dans la manière dont l'économie y est présente, dont les boutiques y sont présentes. Est-ce que ça n'est pas quelque chose de différent de ce que l'on entend dans la droite traditionnelle?
Oui, je ne vois pas exactement les choses comme Jacques Rupnik. D'abord, j'ai l'impression que finalement, tout est dans le monde humain, tout est toujours un peu en crise. Je ne suis pas sûre que ce soit les crises successives dont vous parlez, qui sont réelles, qui auraient fait reculer ces pays. Et ils voulaient l'Europe, et bien sûr, ils l'ont eu, et c'est parfaitement normal. Ils n'avaient pas envie de rester soviétiques, hein, ensoviétisés, disons. Mais je pense qu'ils n'ont jamais cessé d'être plus conservateurs que nous. Et au fond, ils ont, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je suis allée dans tous ces pays depuis 20 ans. Ils ont toujours trouvé que l'Europe, bien sûr, qui était pour eux la planche de salut, et ça, ils n'ont jamais cessé de le penser, que l'Europe était trop émancipée pour eux,
mais,
trop
mais
universaliste.
Mais pourquoi pas sur le plan économique?
Alors, mais pourquoi pas sur le plan économique? Mais parce que quand vous parlez de libéralisme, vous parlez de la doctrine sociale de l'Église. Bien sûr, la Pologne est catholique, elle le reste d'ailleurs malgré tout. Mais ne croyez pas que la doctrine sociale de l'Église est antilibérale. Hein. Elle est ordo-libérale, la doctrine sociale de l'Église.
Et les l'ordo-libéralisme étant une doctrine allemande.
Alors, voilà, les Polonais sont des ordo-libéraux, alors que pour l'instant, il n'est pas encore privilégié tellement l'ordo qu'ils aient d'abord privilégier le libéralisme, ça serait une question à discuter. Mais ils ne sont pas du tout des libéraux excessifs. Ils restent finalement, ils restent dans le catholicisme, je
Chantal
pense.
Delsol, on a connu une période, puisque vous parliez d'enracinement, on a connu une période où la Pologne était cosmopolite, elle parlait français, elle a accueilli des juifs. Il y avait 3,5 millions de juifs avant la Seconde Guerre mondiale.
Oui,
2,9 millions ont péri pendant la Shoah. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une conception particulière de l'enracinement? Parce que, on évoque souvent l'identité pour l'instrumentaliser dans les débats politiques. On peut être en revanche extrêmement polémique sur ce que l'on appelle l'identité d'un pays.
La Pologne était un pays d'identité multiple. Tous ces pays, d'ailleurs, étaient des pays d'identité multiple, beaucoup plus que nous. Quand on parle de l'antisémitisme polonais, bien sûr, ça existe parce qu'il y avait beaucoup de juifs, justement. Et donc,
ça demeure alors qu'il n'y a plus de juifs.
Je pense pas que ça demeure vraiment. Je pense que,
vous pensez que ça ici, demeure
on, est pas en train, on est en train de traquer la moindre blague. Mais bon.
Non, c'est. Disons que la situation est plus compliquée que cela, notamment parce qu'il y a une réécriture. Enfin, l'enjeu, la manière dont la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui présente dans la mémoire polonaise est un enjeu, avec un certain nombre de polémiques, notamment l'installation d'un Carmel à Auschwitz. Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire de la mémoire polonaise à cet égard, mais disons qu'il y a une tentative du gouvernement de présenter une autre Pologne en, par exemple, minimisant probablement le rôle des Polonais dans le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, non, mais il est évident que ce gouvernement va effectivement aller dans ce sens. C'est un gouvernement qui est quand même très 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 extrême à ce point de vue-là, effectivement. Mais parler de l'antisémitisme polonais, je pense qu'il est pas plus grave que l'antisémitisme qu'on trouve dans les paroles des raps ici en France.
Jacques Rupnik, sur la manière dont ces pays aujourd'hui envisagent leur identité et comment ils le reconstruisent. Parce que là, il n'est pas inutile aussi de reprendre l'histoire de cette région. Et la Pologne a vu ses frontières être modifiées avec l'Empire russe, la Prusse, la manière dont l'Empire austro-hongrois également s'est démantelé dans le siège de la guerre de 14-18. Tout cela fait de cette région une région extraordinairement compliquée.
Effectivement, il est important de comprendre que depuis 25 ans, il y a eu une formidable convergence Est-Ouest en Europe sur l'économie, sur les institutions, sur les modes de vie, toutes sortes de caractéristiques sociologiques, l'espérance de vie, par exemple. Et il y a une différence importante, ça a été dit, sur la culture. Ils sont plus conservateurs, et comment l'expliquer? Et une des explications qu'on peut donner, c'est que ils sont sortis des empires multinationaux et ils ont construit des États-nations qui d'abord n'en étaient pas. Un tiers des populations de tous ces pays, de la Pologne, la Tchécoslovaquie, tous avaient un tiers de leur population, c'était les minorités nationales. Donc la question nationale, les minorités a empoisonné tout l'entre-deux-guerres. La guerre et, j'allais dire, les efforts conjugués d'Hitler et de Staline. Hitler a exterminé les Juifs. Staline a aidé à l'expulsion des Allemands. On s'est retrouvé pour la première fois de l'histoire avec une Pologne qui est un État ethniquement homogène. La République tchèque est un État homogène. Ça, c'est important pour comprendre ce qu'est leur conception de la nation. Deuxièmement, ils étaient, pendant la guerre froide, derrière le rideau de fer. Vous ne pouviez pas sortir, mais vous ne pouvez pas rentrer. Donc, ils n'ont pas eu, depuis un demi-siècle, les vagues migratoires successives qu'a connues l'Europe occidentale. Donc, ils ont une vision de leur nation beaucoup plus homogène, de leur société beaucoup plus homogène que les Occidentaux. Et alors, pour des raisons historiques que j'évoquais tout à l'heure, ils ont ce sentiment d'être un rempart de la culture et de la civilisation européenne face au monde ottoman, autrefois, face à l'islam, face à la Russie soviétique de façon plus récente sous le communisme, et ils reformulent en quelque sorte cette conception culturelle de la nation qu'ils ont, parce que c'était des nations sans État. Ils ont construit leur identité nationale sur la culture. C'est pas comme en France, l'État qui crée la nation et une nation de citoyens. C'est la nation culturelle, par la langue, la culture, la religion, qui construit son État. On passe de la culture à la politique. Et ils transposent cela au plan européen. Leur vision de la nation est transposée au plan européen. C'est une vision assez différente de celle qu'on entend dans l'Union européenne, qui est une Europe qui se définit par des normes juridiques, des normes des droits de l'homme. Et donc, vous avez là deux visions, celle, disons pour aller vite, d'Angela Merkel qui dit « l'Europe, c'est les droits de l'homme universels », et vous avez de l'autre côté ceux qui affirment « l'Europe, c'est une identité culturelle à protéger ».
Qu'en pensez-vous, Chantal Delsol ?
Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord. Si vous prenez la question de l'immigration qui est lourde, les Européens ont tendance à dire « enfin, tous ces pays, nous les avons aidés ». franchement, c'est incroyable de voir comment ils se comportent. Maintenant, ils veulent plus d'immigrés alors que nous, on les a accueillis. Enfin bon, c'est un peu facile de donner des leçons.
Bah, ou pour le dire autrement, ils devraient assumer une part de l'accueil des réfugiés.
Ils n'ont pas la même manière de voir l'immigration que nous. Vous parlez de Merkel, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jacques Rupnik. Merkel dit, voilà, nous accueillerons l'année prochaine 1 million d'immigrés parce que de toute façon, nous avons besoin 1 million de bras. Les Polonais, les Hongrois répondent, mais des personnes ne sont pas seulement des bras qui vont travailler dans des usines, ce sont aussi une culture, une langue, des habitudes, des croyances, des traditions, etc. Et ça, c'est évidemment très différent. C'est la différence entre la vision universelle dont vous parlez, qui est effectivement typiquement celle de Merkel et aussi de Macron d'ailleurs, disant bon voilà, nous sommes dans un pays de normes et une personne, c'est un bras qui va travailler dans une usine. Ben eux, ils disent non, je suis désolé, c'est pas ça. C'est bien plus compliqué que ça. Je crois qu'elle est là. La grande différence est là, et c'est pour ça qu'ils sont en recul devant cette affaire d'immigration qu'on veut leur imposer. Vous devez en prendre tant par pays. Vous voyez.
Alors parce que pour la Hongrie, il s'agit quand même de prendre 1294 migrants, ce qui n'est quand même
c'est quand même très peu. Ouais.
Ce qui n'est quand même pas un chiffre très important, parce que vous dites voilà, ils ont une autre conception, c'est-à-dire que vous tirez en quelque sorte un discours qui peut être perçu comme un discours xénophobe par le haut, on pourrait le tirer par le bas en disant que simplement ils instrumentalisent la question des migrants.
Non, mais bien sûr, on peut toujours. La perversion du discours dont je parle, c'est la xénophobie. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, bien sûr qu'elle existe. Mais tout discours a sa raison et sa perversion. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que dans leur discours, il n'y a pas que de la perversion. Parce qu'ici, nous avons tendance à penser ça. D'abord à les injurier avant même de parler avec eux. L'ambassadeur de Hongrie, vous savez, il a du mal à serrer la main à quelqu'un à Paris. Hein, c'est pas si simple. Hein. Donc leur discours n'est pas que de la perversion. C'est aussi un discours qui a ses raisons. Il y a les deux. Mais c'est juste ce que je veux dire, c'est tout.
Jacques Rupnik, est-ce que l'on voit, parce que là aussi, dans cette manière d'envisager le passé, l'identité de ces pays, il y a une reconstruction, y compris pour la Hongrie d'ailleurs.
Oui, bien entendu. La Hongrie a vécu avec le traumatisme d'un pays qui, après la chute de l'Empire austro-hongrois, a perdu un tiers de sa population. Et donc l'obsession, c'était la question hongroise, le souci des minorités dans les pays voisins. Donc on est dans la défense de la nation hongroise. Et évidemment, si vous avez ce nationalisme meurtri, traumatisé, et qui en plus considère l'Occident comme coupable, puisque c'est Trianon le coupable, c'est le traité de Trianon, et la France en particulier. Et donc vous avez oui, bien sûr, vous avez cela, et ça permet pour le gouvernement actuel de jouer sur ce registre. Mais vous avez aussi raison de dire que, quand même, quand on fait partie de l'Europe, et quand on tire un avantage extraordinaire, parce que ça fait 20 ans, la prospérité de ces pays, qui est considérable, tous les avantages, la liberté de circulation, enfin, leur transformation a été telle, vous avez aussi une obligation, j'allais dire, de solidarité. Et donc, si on vous dit de répartir 160 000 migrants entre 28 pays de l'Union européenne, 1200, vous avez dit, pour la Hongrie, c'est à peu près la même chose pour les Tchèques, ça ne résout pas le problème de la migration, mais c'est un geste de solidarité européenne. On a l'idée que nous partageons, en gros, ce problème et que l'Europe, c'est pas quelque chose à sens unique.
Sur la conception de l'histoire et sur la manière dont, finalement, ces pays vivent et vivent encore le traumatisme de la Première Guerre mondiale, la manière dont la Seconde Guerre mondiale également a projeté les peuples européens dans un chaos dont certains pays ne sont toujours pas sortis, puisque la Pologne a aujourd'hui une mémoire très vive de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, je pense que leur agacement vis-à-vis de notre universalisme, dont nous sommes en train de parler, se surajoute à un agacement historique devant des phénomènes qui... Enfin, ils considèrent que nous sommes coupables. Vous parlez de Trianon, bien sûr, c'est très très présent dans la mémoire hongroise.
Et oui, mais c'est compliqué à comprendre. C'est vrai aussi de l'Autriche, puisqu'on a un peu parlé, mais l'Autriche, c'est un empire qui est devenu un département français.
Ils ont l'impression qu'à plusieurs reprises, on les a laissés tomber devant ce qu'eux considèrent comme les barbares de l'Est, qui peuvent s'appeler tantôt les Ottomans et tantôt les communistes. Bon, on ne peut pas tout mélanger, mais on n'a pas bien le temps. Mais donc, leur agacement vis-à-vis de nous est ancien, voire même leur fureur. Hein. Ils sont très partagés vis-à-vis de l'Europe. Bien sûr, ils sont contents d'appartenir à l'Europe et ils en tirent beaucoup d'avantages, vous avez raison de le dire. En même temps, ils nous en veulent d'une certaine manière. Et puis surtout, ils nous en veulent parce que nous sommes justement trop postmodernes. Et quand on parlait de libéralisme tout à l'heure, bien sûr, ils sont d'une manière générale assez libéraux sur le plan économique, mais ils ne sont pas libéraux sur le plan des mœurs.
Alors justement, hein. Comment l'expliquez-vous et quel regard portez-vous là-dessus sur la question donc de la contraception, sur la question de l'homosexualité, par exemple, qui sont des sujets là aussi à vif dans ces pays.
Dans mon département, mon département de Marne-la-Vallée, l'université où je suis émérite maintenant, mes collègues ont créé un master de philosophie et d'éthique pour les médecins, et ils ont créé en partenariat quelque chose à Varsovie. C'est très intéressant à voir parce que sur le plan, vous prenez sur le plan de l'IVG ou du problème des nouveau-nés trop prématurés, etc. Ils ont exactement les idées inverses de nous.
C'est-à-dire.
Et je trouve que des deux côtés on vire vers l'extrême, voire vers la perversion. C'est-à-dire que ici, on serait prêt à pousser ça à l'extrême. On est prêt à pratiquer l'IVG 8 jours avant l'accouchement, dans certains cas, ce qu'on fait en France.
Et eux, dans des cas très spécifiques.
C'est ce que je dis, dans certains cas. Bien sûr, je ne dis pas que c'est généralisé. Mais eux, ils sont à l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'ils en seraient à vouloir soigner des prématurés extrêmes ou à interdire l'IVG dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, mais c'est très, comment expliquez-vous
le débat
cela,
est très intéressant, parce que justement, on peut discuter entre deux théories qui vont très très loin des deux côtés, quoi.
Mais comment expliquez-vous cela? Parce que lorsqu'on va à Varsovie, alors Jacques Rupnik parlait des deux Polognes, mais on se rend compte qu'il y a une société qui est aussi moderne que la société française, et finalement, on a un peu l'impression que les Polonais subissent ces normes qui sont des normes qui peuvent paraître rétrogrades sur l'IVG, sur l'homosexualité, Chantal Delsol.
J'ai longtemps pensé, mais je me demande si je suis pas en train si je me suis pas trompée, qu'il y aurait peut-être chez eux une sorte de rupture à la québécoise, c'est-à-dire que le clergé est tellement puissant, est tellement conservateur, voire réactionnaire souvent, qu'il y aurait une espèce de révolte en termes de rupture complète. Ce qui s'est passé au Québec.
Mais alors, il y a un siècle.
Je suis pas sûr que... Ah non, dans les années 60, hein,
ah oui,
il y a 50 ans. Hein. Je suis pas sûr que ça arrive au fond. Mais ils ont quand même, pour répondre à votre question, un clergé qui est d'abord très nombreux et très réactionnaire quand même. Et je pense que ça joue beaucoup.
Enfin, il faut dire que si le pouvoir actuel se veut proche de l'Église et sa partie la plus conservatrice, il y a une société qui bouge, une société civile. Vous avez bien vu que lorsqu'ils ont voulu changer la loi sur l'IVG, il y a eu un mouvement de femmes qui était surtout dans la jeunesse, qui a fait reculer le pouvoir. La même chose sur l'indépendance de la justice. Vous avez une mobilisation de la société civile. Et il y a un comité de défense de la démocratie qui s'est créé. Donc, ce qui fait quand même c'est pas seulement qu'il y a deux Pologne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une Pologne qui est plus libérale et une Pologne conservatrice, mais il y a aussi une société civile qui existe en Pologne, peut-être pas ailleurs au même degré. Donc voilà, il faut pas donner une vision trop simplifiée ou caricaturale de ces sociétés. Il y a un grand courant libéral, celui que représentait Václav Havel, Bronisław Geremek en Pologne, et ce courant-là a dominé pendant 20 ans. Il est aujourd'hui, j'allais dire, en recul par rapport à d'autres forces. Le balancier pourra repartir dans l'autre sens. Voilà. Ces sociétés sont aussi profondément divisées que les nôtres.
Un mot de conclusion, Chantal Delsol, sur l'avenir de cette région, de cette partie de l'Europe.
Vous savez, c'est bien difficile. Je pense que de toute façon, ce qui est possible, c'est qu'ils influencent le reste de l'Europe, parce que ils sont nombreux et ils ont l'air quand même d'être assez proches les uns des autres. Il est possible qu'ils feront réfléchir l'autre partie de l'Europe.
C'est votre souhait ou
qui pourra se modérer un peu. Ça dépend jusqu'où ça va, parce que je ne voudrais pas aller aussi loin que Kaczynski. Mais je pense que nous aurions besoin de réfléchir dans l'autre sens. C'est ce que je souhaite.
Jacques Rupnik, un mot de conclusion là aussi. Est-ce que vous pensez que ces mouvements populistes représentent une parenthèse dans l'histoire de ces pays ou bien sont-ils là durablement ?
Ils sont là, mais évidemment leur sort dépendra pas seulement de la société civile, comme je l'ai dit, ça dépendra aussi de la situation en Europe en général. C'est-à-dire que leur problème, c'est pas une spécificité centre-européenne. Regardez les élections autrichiennes, regardez les élections françaises quand même, regardez le premier tour des élections, regardez les élections hollandaises, etc. Vous pouvez prendre partout en Europe, nous sommes confrontés au même problème. Et donc la question est de savoir si l'Europe aujourd'hui pourra trouver un second souffle. On parle des initiatives Macron avec l'Allemagne, mais il faudra voir avec qui. Et si cette initiative ne marche pas, eh bien nous serons confrontés à une Europe qui serait en désagrégation. Et ça ne pourrait que profiter au courant nationaliste et populiste à l'Est.
Merci Chantal Delsol, merci Jacques Rupnik.